Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue comme tous les jours dans votre émission Sortez sur Radio Campus, toujours en compagnie de Chloé.
Bonjour.
Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Jacquet qui vient nous présenter l'orchestre d'harmonie de la ville de Tours. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez un concert, d'ailleurs deux concerts de prévus le 18 et 19 janvier.
Effectivement.
Pour le nouvel an, en quelque sorte.
Exactement, c'est les concerts du nouvel an que nous faisons chaque année, pour un petit peu à l'image de ce que l'on voit au mois de janvier, le 1er janvier, avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui présente un répertoire autour de la musique viennoise de la famille Strauss. Et donc, depuis déjà une petite dizaine d'années, nous faisons chaque mois de janvier, début janvier, deux concerts viennois, parce qu'un concert ne suffit pas, il faut qu'on en fasse deux. Pour pouvoir faire venir tout notre public.
Très bien. C'est depuis combien de temps que Vienne, du coup, que l'orchestre de Vienne organise ça pour le Nouvel An ? C'est une tradition ?
Alors, c'est une tradition qui existe, qui remonte, je crois, de mémoire à la deuxième partie du 19e siècle, début. Ah oui. Parce qu'on faisait déjà des concerts. Alors, concert du Nouvel An lui-même, non, mais les concerts viennois de musique de la famille Strauss se faisaient énormément, qui étaient associés directement à des balles.
Très
Donc,
bien.
Au départ, c'était ça.
Ok. Strauss plus que Mozart ou...
Eh bien parce que dès qu'on parle un petit peu de danse, de valse, de polka, okay. etc., on pense à la famille Strauss qui ont été les plus grands compositeurs, que ce soit le père, le frère, le fils, et ils se sont tous mis à composer, voire des fois ensemble, les plus grands thèmes de la musique viennoise, tout ce qui est valse. Et donc une des marches aussi les plus connues que vous connaissez tous peut-être, c'est la fameuse marche de Radetzky, qui est la marche qui était au départ plutôt une marche patriotique et qui est devenue un petit peu l'emblème de la musique viennoise.
Très bien, eh bien, sujet très intéressant, on y revient d'ici peu. Avant, j'aurais peut-être aimé que vous présentiez un petit peu l'orchestre. Combien il y a de personnes, quels sont les instruments, tout, un peu tout ça.
Alors, l'Orchestre d'harmonie de la ville de Tours est un orchestre d'harmonie. Alors, il faut déjà faire la différence entre un orchestre d'harmonie et un orchestre symphonique.
Ah.
La différence entre les deux, c'est tout simplement que nous, on n'a pas de violon.
Okay.
C'est pour ça qu'on appelle ça une harmonie. On appelait ça couramment, dans le temps, une fanfare. Donc, c'est ça, la fanfare, c'était quoi ? C'est fanfare militaire, des instruments, donc des clairons, des trompettes, des tambours. Et bien, l'orchestre d'harmonie, ce sont des instruments qui sont composés essentiellement de vent. Donc vous allez trouver les bois avec des flûtes, des clarinettes, notamment le basson, le saxophone. Vous allez avoir chez les cuivres trompettes, trombones, tuba. Et après, vous avez la famille des percussions. Donc pas un spot de cordes, mis à part maintenant une fois une contrebasse de temps en temps, mais ça reste un orchestre d'harmonie. C'est ça. Alors combien de musiciens ? On en est à peu près autour des 75 musiciens à Tours. Donc c'est plutôt un gros orchestre avec des musiciens de tout âge, ça va de 15-16 ans jusqu'à plus de 70 ans. Et ce sont que des musiciens amateurs qui viennent le vendredi soir répéter ensemble.
D'accord, il y a peut-être un niveau quand même à avoir exigé, c'est pas rien jouer dans un orchestre.
C'est pas rien, surtout quand on est à la ville de Tours où on est un orchestre plutôt important, représentant la ville,
oui.
avec aussi un certain niveau. Donc bien sûr qu'on ne peut pas arriver, parce que les morceaux sont difficiles, c'est un répertoire qui est globalement difficile, donc il faut au moins avoir entre 8 et 10 ans de cours d'instruments pour pouvoir rentrer à la ville de Tours.
D'accord. Vous parliez qu'il n'y a pas de cordes, tout ça. Pourquoi ? Est-ce que c'est... Alors vous, d'ailleurs, vous êtes le chef d'orchestre
de... Exactement. Alors je réponds d'abord à la première question, pourquoi il n'y en a pas ? Parce que, tout simplement, on est issu de ce que je vous disais tout à l'heure, des fanfares militaires.
Ok.
Et donc, avant, vous avez tous entendu ça, qu'on disait, tiens, on va voir la fanfare du village, etc. C'était issu vraiment de ce contexte-là militaire. Et donc, tout doucement, ces orchestres dits fanfares sont devenus des orchestres d'harmonie, se sont même professionnalisés, parce qu'il existe notamment des orchestres professionnels d'harmonie, et pas qu'il n'y a pas que des orchestres symphoniques.
Mais donc, à Vienne, la musique était jouée sans cordes non plus.
Alors là, je vous dirais que la musique viennoise, nous, on fait un répertoire qui a été adapté pour orchestre d'harmonie.
Okay.
Mais à l'époque, les orchestres d'harmonie n'existaient pas. C'était vraiment des orchestres limités vraiment à l'armée. Et les autres, c'était des orchestres symphoniques, donc avec ce qu'on connaît, les grandes cordes, violon, violoncelle, alto, contrebasse, etc.
Et donc, vous avez dû arranger les morceaux ? Qui l'a fait ?
Alors en général, il y a des arrangeurs, ça m'arrive d'arranger, mais pour la musique viennoise, nous avons maintenant depuis des années un répertoire qui se développe énormément pour les orchestres d'harmonie. Comme je disais, ça se professionnalise, donc automatiquement on a des grosses sociétés d'édition qui demandent à des arrangeurs, notamment dont les meilleurs sont souvent américains et japonais, qui arrangent beaucoup de répertoires symphoniques pour orchestres d'harmonie, et même composent notamment des œuvres que pour orchestre d'harmonie. Donc il y a même des spécialistes comme ça qui sont dans le monde entier, qui sont de grands, grands compositeurs. Et en France, on a de très, très bons compositeurs aussi de musique d'harmonie.
Ah, intéressant, on va y revenir aussi. 75 musiciens, c'est énorme, enfin, en quelque sorte.
Oui.
J'imagine qu'il n'y a pas de micro sur scène, tout est acoustique.
Tout est acoustique.
Très bien.
Alors, il faut savoir que 75 musiciens dans un orchestre d'harmonie, ça développe plus d'une centaine de décibels.
Ok.
Quand on joue à plein.
Presque le niveau maximum d'une salle de concert.
Oui, qui est 105 décibels. On atteint des niveaux où on est on pourrait avoir à plus de 105 décibels, notamment à mon poste en tant que chef d'orchestre, où là, sur certains fortissimo, comme on dit dans le jargon, où là, on prend tous les cuivres, tous les bois et les percussions d'un seul coup, et on arrive à un très fort volume. Mais l'orchestre est capable de faire de très forts volumes jusqu'à faire des choses très très douces et très délicates. D'où l'intérêt d'être chef d'orchestre et de pouvoir jouer avec toutes ces nuances.
Donc c'est l'un des rôles du chef d'orchestre.
L'un des rôles, voilà. C'est jamais facile, le chef d'orchestre, c'est jamais facile parce que le but, c'est d'essayer de coordonner tous ces 75 musiciens pour qu'à un moment, tiens, on joue tous ensemble à la même vitesse et après, on essaye de mettre tous le même caractère. Et moi, je suis là un petit peu pour coordonner tous les pupitres, aller chercher à côté, à droite, les saxophones un petit peu moins, au fond, les percussions un petit peu plus, essayer d'avoir l'image que moi j'ai en tête de l'œuvre, que j'essaye de l'appliquer avec les 75 musiciens devant moi, en leur donnant des indications sur la vitesse, comme je vous l'ai dit, un petit peu les couleurs, les solistes, etc. Donc c'est un travail qui est déjà un travail de préparation au niveau musical.
Complètement. Ça me vient à faire penser qu'en fait, vous disposez les instruments et les pupitres d'une certaine façon où en fait, quand on est dans le public, on a une espèce d'équilibre entre les volumes et tous les pupitres, tous les instruments.
Alors logiquement, normalement, c'est un petit peu comme le symphonique, c'est plus les instruments jouent fort, plus on les recule du chef d'orchestre. Donc souvent dans l'orchestre d'harmonie, c'est un petit peu comme les symphoniques, on met les violons, etc., flûte, les bois, tout ce qui est flûte, clarinette, qui joue pas très fort. Et après, on commence à mettre une rangée de trompettes, de saxophones qui jouent beaucoup plus fort, les trombones, les tubas au fond, puis après les percussions qui sont tout au fond. Donc ça permet d'équilibrer un petit peu le volume de l'orchestre.
D'accord. Pour en finir un peu sur l'orchestre, je me demandais le son des instruments. Sûrement que par rapport à ce que vous jouez, le son est différent tout de même selon les époques, enfin ce que vous les véhiculez. Le son de Vienne par rapport à au son d'aujourd'hui, par exemple que celui qu'on aura le plaisir d'écouter le 18 et le 19 janvier, comment est-ce qu'il a évolué? Est-ce que vous avez une recherche de ces sons ou est-ce que les instruments n'ont pas trop bougé?
Alors, on pourrait dire que normalement, dans la musique de Vienne, il faut savoir que la famille Strauss, c'est tout le début, toute la première moitié du 19e siècle, jusqu'à peu près 1850. Donc là, on est arrivé dans un processus de fabrication des instruments qui est déjà bien maîtrisé. Donc, notamment, par exemple, pour les violons, il a fallu attendre un petit peu le fameux Stradivarius, je crois que c'est Antonio Stradivari qui a posé les jalons du violon moderne. Avant, on était à l'époque baroque, on avait des violons qui étaient d'autres cordes, etc., d'autres tonalités, on pourrait parler comme ça. Et à partir de le début du XVIIIe siècle, la facture était plutôt contemporaine. Et à partir de là, on n'a pas trop bougé. Donc le son qu'on aurait pu imaginer avoir à Vienne en 1830, admettons, on arrive à le reproduire en 21e siècle. Donc ça, le tout, c'est, on peut même jouer, dans ces cas-là, si on veut vraiment être des puristes, c'est de jouer sur les instruments d'époque. Retrouver des instruments du 19e siècle et essayer de retrouver cette couleur qu'on avait, même si elle n'est, à mon sens, pas trop différente de ce qu'on connaît maintenant.
D'accord. Par rapport au son baroque, c'est quoi un peu la différence? Il y a moins de brillance, plus de brillance?
Alors là, on rentre dans des choses un peu plus techniques. Il y a déjà ce qu'on appelle le diapason. Quand vous avez un diapason, vous prenez un diapason, hop, vous le tapez, vous avez ce qu'on appelle un hertz qui donne le fameux La
440.
Qui est à 440. Mais il faut savoir qu'à l'époque baroque, c'était 415.
Okay.
Donc automatiquement, c'est comme on joue un demi-ton pour nous, pour les musiciens, c'est un demi-ton en dessous. Donc ce qui est, voilà, il faut maintenant les vrais, ce qu'on appelle les baroqueux, les vrais baroqueux jouent avec des instruments d'époque, ou des instruments qui sont refaits à l'identique, et ils jouent dans le diapason de l'époque baroque.
Très bien.
C'est ça qui change vraiment, et donc qui change aussi le son, parce que les cordes pouvaient être en boyau naturel, alors que maintenant on a des cordes qui sont métalliques.
Oui.
Donc ça change obligatoirement, on a un son beaucoup plus rond à l'époque baroque, alors qu'on a un son beaucoup plus éclatant et avec un plus fort volume, notamment chez les cordes, à l'heure actuelle.
Et oui. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, du diapason, vous ? Parce que la musique reste tout de même matière aux vibrations corporelles et aux vibrations en quelque sorte. Est-ce que ça change quelque chose de jouer un demi-ton en dessous ? Est-ce qu'il y a une couleur, quelque chose ?
Eh bien, un demi-ton en dessous, mine de rien, ça amène des fois cette espèce de petite brillance qu'on pourrait avoir. C'est comme certaines tonalités qui donnent d'autres sons à l'orchestre. Des tonalités de la majeure, des choses comme ça qui peuvent donner une petite brillance. Il y a des symphonies qui sont composées exprès dans une tonalité parce que ça fait résonner, notamment chez les orchestres symphoniques, des cordes et donc donner un peu plus de brillance à l'époque baroque. Après, c'est plutôt la facture aussi qui donnait ce côté un petit peu plus rond à l'époque baroque plus qu'à l'époque moderne. Mais c'est vrai que maintenant, par exemple, le diapason, il est passé à 442.
Ok.
Donc, on ne peut pas dire qu'on augmente, mais la facture des instruments, l'évolution moderne, fait que tout doucement, on augmente le nombre de hertz pour gagner de hertz. Je ne sais pas, peut-être que d'ici 20, 30 ans, on passera à 444. Ça, c'est aussi la facture, ceux qui fabriquent les nouveaux instruments qui amènent un petit peu à cette justesse-là.
D'accord. Vous pouvez nous parler un petit peu de 440, ça fait combien de temps ? Ça fait un siècle ? Ça fait un siècle et demi qu'on joue à 440 ?
Normalement, c'est essentiellement l'époque baroque qui était à 415.
Ah ok, sinon...
Et donc, à partir de l'époque classique, donc c'est tout ce qui est 18e siècle, etc., on est passé en 440.
D'accord.
On a basculé en 440 avec la facture des instruments. Donc c'est, à la limite, on considère que 415, c'est vraiment l'époque baroque et avant. Et à partir de l'époque classique, toutes les grandes symphonies, etc., on est passé à 440.
Ok. Alors c'est assez intéressant, ça me fait penser à quelque chose. Que le fait qu'avant, il n'y avait ni Internet, ni toutes ces choses. Alors est-ce que même tous les orchestres jouaient sur la même hauteur ? Ils s'accordaient ensemble, mais est-ce qu'en France, puis après en Autriche, et puis après, il y avait une espèce d'échelle logique ?
Alors l'échelle logique, il faut savoir que la musique voyageait énormément en Europe.
Ok.
Donc les compositeurs se baladaient énormément, faisaient des voyages, des fois des tournées de 6 mois, 1 an, voire plus. Alors il faut savoir que ça se faisait à cheval. Et donc, même Mozart a fait des grandes tournées, la famille Strauss pour le Viennois a fait des grandes tournées en Europe. Donc ils amènent leurs partitions, ils amènent leurs connaissances, ils amènent aussi la facture d'instruments qu'il y avait en Italie n'était pas la même qu'en France. Et donc tout ce monde en Europe entend, écoute, c'est ce qui se passe dans le pays d'à côté. Les compositeurs français vont en Allemagne, les Allemands viennent en France. Et donc tout le monde sait un peu ce qui se passe en Europe. Donc automatiquement, il y a tout ce travail qui fait que tout le monde est au courant de tout et tout le monde s'ajuste un petit peu.
Ok, très bien. Il y a, nous, à notre époque, vraiment une façon de penser la musique viennoise. C'est une beauté pure, en quelque sorte, pour nous, et c'est largement dit. Est-ce qu'à l'époque, déjà, qui écoutait cette musique ? Est-ce qu'elle était représentée comme nous, on peut la penser aujourd'hui ?
Alors, la musique de la famille Strauss, notamment, musique viennoise, est... Comme beaucoup à partir du 18e siècle, 19e siècle, ce sont la musique qui est normalement accessible à une certaine bourgeoisie.
Oui.
D'accord. Donc, c'était souvent les musiques étaient composées pour des bals, pour dire des bals de cour, etc. Même si après, maintenant, elle s'est beaucoup démocratisée, ça reste quand même une musique qui est très élitiste. Même si, je pourrais vous donner un exemple, pour aller écouter le concert de Vienne le 1er janvier, la place est à plus de 1 200 € au maximum, et on est tiré au sort, tellement il y a de monde.
Okay.
Donc ça montre bien que voilà, les gens qui peuvent accéder, alors après on peut avoir des places à 35 €, mais on est debout, on est au fin fond, etc. Et en plus on n'est pas sûr de l'avoir. Donc c'est une musique qui, quelque part, est un peu limitée à une certaine, aristocratie, oui, etc. Et à l'époque c'était ça, c'était les grands bals, comme on imagine les bals des débutantes, comme il y a de temps en temps encore à Vienne. Et là, c'est pareil, c'est l'orchestre qui joue des valses de Strauss, etc. Et c'est une certaine bourgeoisie qui fait ces fameux bals. Et cette musique, voilà, était véhiculée notamment à ça. Après, il a fallu attendre beaucoup plus tard pour que la musique aille au-delà un petit peu de ce cercle bourgeois qu'il y avait à cette époque.
Ça coûte combien de faire jouer l'orchestre de Vienne ?
En tarif ? Alors ça, je pense qu'on est en plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans parler du déplacement.
Ok. Et le prix du violon, du premier violon, il...
Ah bah,
20 000, 50 000 ?
Ah ben non, on peut avoir des instruments à beaucoup plus chers. Hein.
Okay.
Notamment chez les quelques rares Stradivarius qui existent encore, les violons ne leur appartiennent pas. Parce qu'on est à plus de 1 500 000 euros le violon. Okay. Et donc là, c'est souvent des banques ou des fonds particuliers qui prêtent aux très grands solistes un instrument d'exception.
Okay.
Mais on est à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour un instrument, pour un violon.
Vous avez sûrement déjà eu la chance, vous, d'écouter un instrument de cette qualité ?
Ça m'est arrivé une fois dans un musée où on avait des Stradivarius. Et souvent, ils sont très très visionnés. J'ai entendu une fois un Stradivarius, mais il y a quelques temps, mais c'est assez rare. Ou alors après, il faut aller dans des concerts avec vraiment quelques solistes dans le monde qui ont la chance d'avoir cet instrument sous la main.
Et alors, est-ce qu'il y a une réelle différence ? Il y a quelque chose qui vous a fait dire, oula, oui, ok, je comprends.
C'est une question qui est difficile parce que tout dépend de l'interprète qui joue.
Exactement.
Parce qu'on peut donner un Stradivarius à quelqu'un qui joue pas très bien du violon.
Ah, moi, par exemple,
moi aussi, je suis pas violoniste du tout, donc ça pourrait me... Non, ça dépend. Voilà, un très très bon musicien vous fera sonner un instrument, voilà, même un instrument médiocre, pourra vous le faire sonner alors que l'inverse ne fonctionne pas très bien. Alors après, un très grand interprète avec un très grand instrument, automatiquement, on arrive à avoir un son d'instrument qui est vraiment superbe.
Très bien. Merci Emmanuel Jacquet. On se retrouve juste après une musique de Schumann, je crois.
C'est ça, je te laisse dire le titre, parce que moi je... Non. Trop allemand, trop viennois pour moi.
En tout cas, magnifique morceau. On vous laisse l'écouter tout de suite. Thank you. de retour sur Radio Campus dans votre émission Sortez, toujours en compagnie de Chloé et Emmanuel Jacquet. Prochaine question, comment définiriez-vous le rôle d'un chef d'orchestre ?
Eh bien, le chef d'orchestre, c'est d'abord réunir tout le monde autour d'un projet musical. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis un petit peu le décideur du répertoire, des morceaux, et le but aussi, c'est de faire adhérer les 75 musiciens à ce projet-là, et après de faire travailler différentes parties, parce que tout le monde ne joue pas la même chose, et de pouvoir réussir à faire une osmose entre tous les musiciens. C'est déjà le premier point. Après, il y a un côté un petit peu aussi plus social, où là, on est aussi 75 hommes et femmes, ados, et on doit vivre ensemble le temps d'une répétition ou le temps d'un concert, et que tous ensemble, on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire sonner l'orchestre et puis faire sonner le morceau.
Oui, c'est un espèce de leader, comme on pourrait considérer dans un groupe de rock, enfin, en quelque sorte. Il lead un peu la...
Ben, c'est-à-dire que le chef d'orchestre, c'est un vrai leader, parce que c'est lui qui, comme tous les instruments, des fois, ne s'entendent pas. Si vous prenez un instrument qui est totalement à ma gauche et un dernier qui est totalement au fond, ils ne s'entendent pas. Donc je suis le seul référent avec ma baguette au niveau du tempo, au niveau des indications. Et donc, à défaut de s'entendre, ils doivent suivre le chef en jouant leur partie. Et après, et pour ça que des fois, ils ne se rendent pas obligatoirement compte de tout ce qui se passe, par exemple, devant, parce que quand ils sont tout derrière avec des percussions dans les oreilles, ils n'entendent pas tout. Donc je suis leur référent par rapport à ça.
Et donc, vous connaissez l'œuvre réellement par cœur. Chaque mesure est enfouie, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de lire en même temps que de diriger, en quelque sorte.
Des fois, quand vous avez des morceaux, on a tendance à les connaître par cœur, mais c'est vrai que vous avez des morceaux avec une telle complexité qu'il faut le connaître par cœur, donc bien le maîtriser. Mais on peut et regarder et faire des gestes, parce que des fois vous avez des partitions qui durent 20 minutes, 30 minutes, et on a besoin d'avoir un peu sous les yeux certaines indications que nous on a notées, même si on l'a beaucoup travaillé, on a besoin quand même des fois d'un support visuel, mais ça ne nous empêche pas de lever la tête, de regarder l'orchestre, de donner des départs, etc. En temps replongé pour suivre, parce qu'on doit tourner des pages en même temps.
Et oui.
Donc il faut avoir un œil un petit peu là, un petit peu face à l'orchestre et un petit peu partout.
Ok, mais donc la musique pour vous écrite, j'entends le solfège, est devenu un langage... complètement logique, en fait. C'est-à-dire que vous entendez même la musique jouer, quelque part ?
L'idée, c'est que, normalement, quand on est chef d'orchestre, il faut avoir une très bonne maîtrise, ce qu'on appelle du solfège, une très bonne lecture, parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut très très bien lire les partitions, parce qu'on doit guider les autres. On doit leur dire s'ils font des erreurs de rythme, des erreurs de notes. Donc c'est à nous de bien maîtriser. Il faut qu'on soit capable de chanter dans notre tête les mélodies, même si on n'a pas les instruments, il faut, en lisant un conducteur, on devrait être capable de dire, tiens, ça va sonner comme ça, il se passe ça, etc. Et d'avoir tout dans la tête, même sans avoir encore l'orchestre sous la baguette.
Ah. Et donc, comment on devient un chef d'orchestre ? C'est pas donné à tout le monde, du coup, quand même.
Oui, ça peut être donné à tout le monde, mais il faut d'abord avoir un solide bagage musical. Parce que quand on est chef d'orchestre, je vais pas dire qu'il faut être crédible devant les musiciens.
Il faut avoir une
certaine crédibilité, parce que quand on donne des indications, qu'on donne sa sensibilité, qu'on donne ses orientations vis-à-vis de l'orchestre, on a besoin d'être crédible par rapport à ça, en disant, tiens, parce que quelque part, être chef d'orchestre, c'est une dictature. Je ne demande pas l'avis aux musiciens. Je leur dis, moi, j'ai conçu l'œuvre comme ça, je la pense comme ça, et après, on regarde ensemble et on va dans cette direction-là. Donc j'impose un petit peu ma vision. Ça a toujours été comme ça, le rôle du chef d'orchestre. Et donc après, voilà, il faut avancer, etc. On avance tous ensemble autour de ce projet de direction. Alors après, pour devenir chef d'orchestre, il faut avoir une solide pratique instrumentale aussi. Donc il faut être plutôt bon musicien. Mais être bon musicien ne fait pas obligatoirement un bon chef d'orchestre. Être bon en solfège ne fait pas obligatoirement un bon chef d'orchestre. Parce qu'il y a une grosse partie qui est la relation humaine. Parce qu'emmener 75 musiciens avec soi autour des projets... Soit vous êtes un chef d'orchestre professionnel, et dans ces cas-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, leur crier dessus, faire ce que vous voulez, ils sont payés. Mais quand vous faites partie, ce qui est plus difficile, et ce qui est mon cas, d'un ensemble amateur, les musiciens viennent là que pour leur plaisir, et donc ils viennent le vendredi soir pour travailler ensemble, faire un orchestre de bon niveau, mais avec ce plaisir-là. Et nous, en tant que chef d'orchestre, on est là pour leur procurer ce plaisir, avec de l'exigence, mais beaucoup de plaisir. Donc il y a une bonne part du travail du chef d'orchestre qui est le relationnel avec ses musiciens, et le fait qu'il y ait une vraie complicité entre le chef et ses musiciens. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire monter le niveau, monter des projets ensemble avec cette même envie, une envie commune d'aller plus loin dans la musique.
Vous préférez jouer quoi? Quelle époque musicale vous passionne? Qu'est-ce que vous préférez jouer avec votre orchestre?
Alors l'avantage c'est des orchestres d'harmonie, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'orchestre d'harmonie comme il est actuellement au 21e siècle est globalement assez récent. Donc les œuvres qu'on joue, ce soit des transcriptions, ce qu'on appelle les transcriptions d'œuvres classiques, notamment ce que l'on fait samedi et dimanche à l'hôtel de Villetour, c'est-à-dire qu'on prend des danses viennoises, que ce soit des valses de Strauss, des polkas, etc., qui ont été adaptées pour l'orchestre d'harmonie. Ou alors on a beaucoup de compositeurs qui, à partir du milieu du XXe siècle jusque maintenant, continuent à écrire spécialement pour orchestre d'harmonie. Donc nous avons de jeunes compositeurs qui ont d'une trentaine d'années jusqu'à un peu plus anciens, qui font partie des très grands compositeurs orchestre d'harmonie, d'ailleurs, et qui nous font un répertoire spécialement pour orchestre d'harmonie. D'ailleurs, on va faire venir d'ici un an et demi un chef d'orchestre new-yorkais et compositeur exprès à Tours pour faire venir jouer une de ses œuvres qu'il compose. Donc ça fait, voilà, pour vous dire qu'on est actuellement un répertoire qui est toujours en création. À chaque fois on continue à avoir des nouvelles œuvres qui arrivent chaque année, des jeunes compositeurs qui continuent, voilà, on n'est pas tourné nous vers le passé quelque part comme un orchestre symphonique où on va aller chercher des œuvres symphoniques du romantisme, du classique, du Beethoven, voire un petit peu avant, du Mozart. Nous on est vraiment orienté vers ce qui se fait au XXIe siècle avec chaque année des nouvelles créations.
Ah, très intéressant, on en parlera aussi après. J'aurais aimé revenir un petit peu sur cette école de Vienne dont on parlait. Est-ce que vous pourriez nous resituer un petit peu, justement, quand on parle de l'école de Vienne, on parle de quel compositeur, les 3-4 les plus importants?
L'école de Vienne, au départ, c'est Beethoven, Mozart, voilà, c'est vraiment l'école classique de cette époque-là, c'est vraiment les grands. Après, on dit école de Vienne, à ne pas confondre avec la musique viennoise qui a pris maintenant une connotation vraiment musique, valse, je vous l'ai dit, polka et autres, fait par la famille Strauss notamment, qui était vraiment au début du 19e siècle.
Juste après.
C'est-à-dire que l'école viennoise, c'est pour ça qu'on parle après de deuxième école viennoise au début du 20e siècle, avec d'autres compositeurs contemporains. Donc c'est, voilà, faut pas confondre école de Vienne et musique viennoise, qui est vraiment deux choses très différentes. Après, l'école de Vienne, la première, c'est vraiment l'école l'époque classique, des débuts du romantisme. On est vraiment dans cette... voilà, avec les compositeurs que je vous ai cités tout à l'heure, qui font partie des plus grands et un petit peu des génies de la musique classique.
Alors c'est rigolo que sur une période aussi petite de l'histoire, il y a eu cette espèce de tsunami de talent, de création musicale. Comment vous l'expliquez, vous, que ce soit arrivé là, à ce moment-là, et qu'il y en ait eu tellement, en fait, en quelque sorte?
Est-ce qu'on peut dire, alors là on rentre dans la musicologie, est-ce qu'on peut dire pourquoi un Mozart est né à cet endroit-là et pourquoi a suivi un Beethoven,
oui,
et pourquoi juste avant il y a eu un Bach? Et on considère que Bach, la mort de Bach était la fin du baroque et après la naissance de Mozart était le début de l'art classique. Donc dans l'histoire, voilà, il y a eu des grands compositeurs qui ont marqué chaque époque, notamment ce qu'on vient de dire, que ce soit Bach et Mozart. Pourquoi il y a eu des génies à ce moment-là? Il y avait du génie, mais il y avait aussi cette culture des précepteurs, notamment musicaux. Il faut savoir que Mozart, si on parle de Mozart, c'était quelqu'un qui a commencé très jeune, mais avec l'aide de son père.
Oui.
Parce que dès l'âge de 3-4 ans, il savait lire la musique avant de savoir lire un livre. Donc il a été soutenu, ses premières œuvres ont été composées avec l'aide de papa, les premiers menuets, il a fait quand même sa première symphonie à 10 ans, première opéra à 12. Donc, après, il faut qu'il y ait un génie, mais il y avait aussi une école, une famille bourgeoise qui était, voilà, très, vraiment derrière, qui lui inculquait tout ça. Et après, bon, il y a la part de génie qui fait qu'il n'aura qu'à Mozart.
Complètement. C'est peut-être aussi, du coup, Vienne, quelque part, une politique culturelle, peut-être, qui a fait...
Oui, Vienne fait partie quand même des berceaux, qu'on pourrait dire, de la musique classique. C'est vraiment, on dit, voilà, il faut aller à Vienne. À Vienne, on a des concerts viennois, comme on pourrait parler que quand vous allez du côté de Venise, etc., on a toute l'époque de la musique italienne baroque où tout était un petit peu centré. On a des comme ça dans, en Europe, quelques endroits où voilà, on a des endroits où se situait le compositeur qui était vraiment un petit peu le focus sur cette musique-là. Et Vienne fait partie vraiment de l'endroit où il fallait aller à Vienne. Quand on était compositeur français, quand, il fallait aller faire un tour à Vienne, il fallait faire un tour en Italie, voir comment, comment on composait à l'italienne, comment on composait à Vienne. Et pour un petit peu prendre le, un petit peu le sentiment de toutes ces époques-là et de la façon des compositeurs de travailler chacun de son côté, pour après un petit peu regarder, puis peut-être amener un petit peu de ce, comment dire, un petit peu de ce travail qui a été vu dans d'autres pays pour un peu nous, après les compositeurs, s'amuser à le mettre un petit peu dans ses compositions, de voir un petit peu, d'aller un peu plus loin à chaque fois.
Et oui, complètement. Le... Excusez-moi. Le... La vie d'un compositeur à l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas Pôle emploi, l'intermittence. Donc, comment est-ce qu'ils vivaient ? Ils étaient rémunérés à l'œuvre ? Ils en écrivaient une, ils la vendaient ?
Ça dépend. Il faut savoir qu'au début, ce que les compositeurs cherchaient, c'était d'être attaché soit à un roi, soit être, comme on disait, comme était Bach, maître de chapelle, où, voilà, où on était. On était associé à une église, à un roi, à un prince, et c'est lui qui payait chaque mois, entre guillemets, un salaire pour que le compositeur lui fournisse une œuvre par semaine. Admettons, Bach faisait une cantate par semaine, il avait le temps de faire répéter, il composait en 4 jours, il faisait répéter, et le dimanche, il faisait tout jouer, etc. Donc il y avait quand même un travail, ils étaient rémunérés pour ça. Un des premiers qui a vraiment voulu arrêter ce système-là, c'était Mozart, qui a voulu un jour avoir des libertés. Okay. Parce qu'au départ, c'était, ben, oui, c'est bien d'être auprès d'un des princes, d'avoir une vie, un salaire, sauf qu'il avait l'impression de ne pas pouvoir composer ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait dans la tête. Il était haut, il avait des obligations de composition. Et donc, il a fallu qu'il, à un moment, il a décidé de stopper pour regagner sa liberté et faire, comme vous disiez, être payé à la commande. Mais ça, après, on en parle encore au niveau des historiens, entre la vie de Mozart, la fin de sa vie, on est plutôt à dire que voilà, c'était pas tout rose au niveau financier. Il a quand même fini dans une fosse commune. Donc voilà, il a pas sépulture, on sait toujours pas où est le corps de Mozart. Parce que voilà, la fin de sa vie, il y a quand même pas beaucoup d'argent, il a gagné sa liberté. Mais voilà, c'était beaucoup plus difficile.
Okay.
Mais les compositeurs sont issus, normalement, beaucoup de comme dit, la musique était accessible seulement à la bourgeoisie. Donc qui apprenait la musique, c'était la bourgeoisie qui avait les moyens de payer un professeur de musique toutes les semaines, etc. Voilà, c'est pour ça que ça, on appartient un petit peu à cette catégorie-là.
Et on rappelle du coup, fin de la vie de Mozart, c'était pas vu à cette époque. Je sais pas à quel
35 âge. Ans.
35 ans.
Lui, il est mort à 35 ans de maladie, visiblement maladie des reins. Quand on lit c'est les lettres à son père, on apprend un petit peu que... Il avait des problèmes, un petit peu de douleur au niveau des reins, etc. Donc c'est comme ça que les historiens de la musique ont dit, bon, visiblement, elle est morte d'une maladie. Et c'était il est mort très peu de temps après la première de son dernier opéra, qui était la Flûte enchantée.
Ah, ok.
Voilà. Et donc, voilà, son Requiem, son fameux Requiem, qui était composé tout à la fin, etc. Voilà. Après, vous pouvez toujours aller voir le film Amadeus, même si c'est très romancé, de Milos Forman, qui donne un peu une idée un petit peu de ce qu'était la vie de Mozart.
C'est intéressant, j'allais vous en parler. On aurait bien aimé avoir votre avis, d'ailleurs, sur ce film.
Je peux vous donner mon avis, mais je ne suis pas un expert ni musicologue spécialisé de Mozart. Après, les différents avis, c'est qu'il y a toujours l'aspect un petit peu romancé des vies, et puis notamment cette rivalité avec Salieri, qui n'a pas eu lieu, parce qu'on a retrouvé il y a deux ou trois ans un manuscrit qu'on a retrouvé en Pologne qui était co-signé Mozart et Salieri. Donc qui a mis un peu à mal cette rivalité, alors qu'il y a eu visiblement des concerts un petit peu pas communs, mais des choses qui se faisaient et ils se voyaient régulièrement. Alors ce que Milos Forman a voulu faire un petit peu pour le film, montrer que c'était que Salieri était un grand jaloux de Mozart, etc. Visiblement la vérité historique était quand même tout autre, même si maintenant Salieri, on arrive à faire des concerts que de la musique de Salieri. Donc ça a un peu évolué par rapport à ça.
Oui. Moi j'étais allé l'écouter et elle est très très bien sa musique, il n'y a pas de doute.
Oui, c'est une musique, il y a eu, je crois que c'est à Tours il y a un ou deux ans, ils ont fait au symphonique de la région Val-de-Loire, avait fait un programme autour de la musique de Salieri, un petit peu comme si on avait besoin de replacer un petit peu ce compositeur qui était resté quand même dans l'ombre de Mozart assez longtemps, et ben c'était bien de pouvoir ressortir un petit peu de son répertoire de cette époque-là.
Complètement. Sûrement un peu moins connu, il y a eu aussi au début du XXe siècle l'apparition de la seconde école de Vienne, désignant des compositeurs comme tout ce qui rime en Berg, en fait. En on a Schoenberg, Berg, Webern, tout ça. Précurseur de la musique contemporaine,
exactement,
explorant la tonalité, le dodécaphonisme et le sérialisme. Alors, ces termes barbares, est-ce que vous pouvez un peu nous dépeindre ça, nous ouvrir les yeux?
Alors, c'est vrai que l'école de Vienne, la deuxième école de Vienne, qui débute au début du XXe siècle, et on est dans... Alors, si, il faut se mettre dans un état d'esprit qu'au XXe siècle, l'histoire des arts, on est dans l'idée de faire un petit peu fi du passé. Okay. C'est bon, on a vu les partitions, que ça soit même en peinture. On a fait déjà plein de choses. Voilà, il faut aller vers le nouveau. Et donc, on a tendance à un petit peu éliminer tout ce qui a été fait avant pour aller vers du nouveau. Et on est beaucoup dans l'expérimentation. Et donc, pour expérimenter, plein de compositeurs vont se lancer un petit peu à essayer des styles d'écriture particuliers. Notamment Arnold Schoenberg, qui lui était un des compositeurs très très connus, un petit peu des piliers et un des premiers de l'école de Vienne, qui lui était mathématicien. Donc lui, il avait une idée un petit peu de travailler autour d'utiliser les chiffres pour composer, ce qu'on pourrait appeler le sérialisme, ou après on appelle ça le sérialisme total. C'est quoi l'idée? Si je peux essayer de faire court, c'est de composer avec les 12 notes d'une gamme. Et après, voilà, et on s'amuse à écrire avec les chiffres ce qu'on appelle une série. Donc voilà, l'idée est essayer de faire plus simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de répéter une note tant que les 11 autres n'ont pas été entendus. Donc il y avait quelque chose qui est très technique au niveau de l'écriture, parce que l'on était vraiment dans les mathématiques. Je me rappelle avoir étudié du Schoenberg quand j'étais en musicologie, et on cherchait les notes et on comptait 1, 2, 3, 4, 5, comment était composée la série, où est-ce que ça repartait. Donc il y avait un côté vraiment calcul très très mathématique. Donc là, on était dans une nouvelle recherche musicale. Et après, qu'est-ce que la tonalité? Le A étant privatif, c'est que nous, on a l'habitude d'avoir à nos oreilles, en disant la tonalité, ça sonne bien, c'est des accords qui sont harmonieux aux oreilles. Bien, la tonalité, c'est l'idée d'aller plus loin, de oser les dissonances, oser les frottements. Et donc là, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles à l'oreille, qui sont souvent très mal perçues. Je ne vous cache pas qu'au début du XXe siècle, dès qu'on faisait des œuvres un petit peu qui sortaient, nous on sortait de l'époque romantique, etc. Dès qu'on allait vers des œuvres qui étaient fortement dissonantes, le public était globalement assez hermétique à ça. Il a fallu, comme je disais, avoir beaucoup de recul pour se dire que ces compositeurs-là ont réussi à apporter quelque chose à l'histoire de la musique.
Oui.
Donc, je vous donne un exemple. Chez Berg, on pouvait avoir deux orchestres qui jouent plus ou moins la même œuvre avec un demi-ton de décalage. Avec deux ensembles. Donc vous voyez qu'on va vers le frottement, vers des endroits où on n'avait pas osé aller à l'époque romantique, et vers ces explorations d'essayer des nouvelles choses. Après, bien sûr, il y a des courants qui ont fonctionné, qui ont été marqués sur la musique, et il y en a d'autres. Après, pareil, on a essayé d'oublier la partition. On a essayé de créer des nouvelles partitions, de jouer de la musique avec un ordinateur. Et voilà, on a continué tout le XXe siècle jusqu'au XXIe siècle à explorer de comment composer, comment jouer de la musique autrement.
Okay. Est-ce que la modalité est rentrée aussi un peu en compte dans ce siècle-là?
Alors, la modalité, ça date du Moyen-Âge.
Okay.
Donc, c'est quelque chose qui existait déjà depuis très très longtemps. Donc, après, bien sûr que la modalité, c'est quelque chose qu'on retrouve, notamment qu'on avait perdu à l'époque classique et romantique, et qui est revenu après. Voilà. Après, là, on rentre dans des choses un peu techniques, voire un peu trop techniques, et je ne pourrais pas non plus m'hasarder à tout expliquer.
Mais en tout cas, c'était une recherche pour aller presque jusqu'au bout de ce que la musique peut faire, en fait, peut être, en quelque sorte, leur démarche. Un peu.
Oui, l'idée, c'est d'aller qu'est-ce que la musique, hein? C'est d'aller voir qu'est-ce que la musique, comment je peux faire de la musique autrement, on a fait des orchestres, on a fait des notes, on a fait des partitions. Comment maintenant, si j'enlève tout ça, comment je continue à faire de la musique? Après, il y en a qui ont fait ça avec des bandes, il y en a qui ont enregistré des sons. Après, on a essayé de faire Il y a eu plein de possibilités différentes qui ont fait que les gens ont expérimenté la musique autrement, et c'était vraiment le but de ce siècle, et puis ça continue encore à notre époque.
Merci Emmanuel Jacquet. On refait une pause musicale et je crois que c'est au tour d'Eric Satie.
C'est avec toi grand qui plaisir. A choisi, je ne m'y connais pas du tout.
L'une des gymnopédies, je ne sais pas laquelle, un ou deux.
La deux.
La deux. Eh bien avec grand plaisir. Bien, de retour sur le radio de Radio Campus, sur le plateau de Radio Campus. Maintenant qu'on a dépeint un petit peu du 18e au 20e siècle, tout ça, ce qu'il s'est fait un petit peu en musique, je me demandais pour une nouvelle question à notre invité, quels sont les compositeurs qui vous a touché, qui vous semblent intéressants au 21e siècle ?
Après, c'est vrai que les compositeurs du 21e siècle, il y en a quand même plein. Okay. Et qui font des choses très très variées. On peut avoir des compositeurs qui font de la musique de film tout en faisant des symphonies ou des musiques différentes. C'est vrai qu'on peut aller, très très loin. Il y a plein de jeunes compositeurs qui font de la musique. Après, c'est de la musique moderne, notamment. Après, il faudrait se retourner pour ceux qui aiment la musique contemporaine vers plutôt l'Intercontemporain de Paris, qui est un orchestre philharmonique qui est spécialiste de la musique contemporaine et des créations. Donc c'est là où on trouve, où là les jeunes, de très jeunes compositeurs vont expérimenter des sonorités, etc. Alors après, il en existe plein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir le recul. Vous m'avez dit, on parlait un petit peu de qu'est-ce qu'un grand compositeur, etc. On pourrait parler des grands compositeurs du 20e siècle, mais du 21e, il y en a plein. Il y en a plein qui explorent de nouvelles sensations sonores, mais de là à dire ce sont les grands compositeurs de demain. Il faut qu'il y ait des œuvres, il faut qu'il y ait du recul pour pouvoir analyser, voire peut-être 50 ans, 100 ans de recul, pour se dire, tiens, celui-là, il a marqué. Voilà, c'est pour ça qu'on peut parler plus facilement des compositeurs du 20e siècle, même si moi j'aime bien Max Richter, qui est un compositeur allemand, qui a travaillé avec, qui fait la musique avec Scorsese, notamment Shutter Island, mais à côté qui fait des recompositions pour Deutsche Grammophon, qui fait des musiques, donc voilà, musique de film, musique minimaliste pour lui, qui fait de la musique aussi à base de synthétiseurs, d'ordinateurs, etc. Donc quelqu'un qui sont vraiment ouverts sur un grand panel. Et à côté, dans les grands compositeurs, vous avez aussi les grands compositeurs de musique de film.
Et oui.
Qui font partie des grands compositeurs. Vous prenez Hans Zimmer, vous prenez Howard Shore, sans parler de John Williams, etc., qui sont sur le 21e siècle, qui sont des grands compositeurs symphoniques. Et donc, qui par contre, sont peut-être plus connus parce que leur musique est associée à un film. Et donc, automatiquement, on retient plus facilement leur nom que certains compositeurs de musique symphonique du 21e qui ont 30, 35 ans. Voilà, ceux-là, on n'a pas le recul. Tous ces grands, on les a vus dans des films, ils ont expérimenté des grandes quantités d'heures de musique. Donc ceux-là, on peut dire, voilà, on a le recul pour dire ceux-là, ce sont des grands compositeurs. Il faudra attendre encore un petit peu pour la nouvelle génération.
Oui, c'est très intéressant parce que presque en fait, beaucoup sûrement dans l'histoire de très grands compositeurs ne le sauront jamais.
Bah, c'est un peu comme les peintres. Hein, si on attendait Picasso de son vivant, notamment, lui était quand même assez connu.
Oui, il avait,
Pour certains compositeurs ou peintres, il a fallu attendre leur mort, voire très très longtemps après, pour qu'on se dise, tiens, là il y avait un génie, leurs tableaux maintenant sont vendus des millions, mais de leur vivant, non. Donc chez les compositeurs, c'est voilà. Après le XXe siècle, ils étaient quand même un peu plus reconnus, il y avait un microcosmos quand même des compositeurs du XXe siècle, où voilà, ils avaient des commandes importantes de partitions qui leur permettaient de vivre de façon quand même confortable.
Mais en tout cas, de nos jours, personne ne n'égale en quelque sorte des compositions classiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi ça s'est perdu? Ou pourquoi ça ne s'est pas perdu? Et je peux avoir complètement tort aussi.
C'est une bonne question. C'est vrai, qu'est-ce que le génie? Est-ce qu'on a des génies comme ça? Est-ce qu'un génie, c'est tous les 500 ans? Ouais. Tous les 200 ans? Est-ce qu'il y a des génies qui s'ignorent? C'est toujours un petit peu... Voilà, c'est pareil... Voilà, on disait que Mozart c'était un génie, certes, il a composé en 35 ans à peu près 700 œuvres, donc il y en a très peu qui ont cette cadence-là, etc., à notre époque, même après, même Beethoven n'a fait que 9 symphonies, Mozart en a fait 41, etc., etc. Donc là, on voit bien qu'on touche des choses qui sont d'un autre temps, d'un autre sentiment, et au XXIe siècle, il n'y a personne qui pourrait... cadencer ça, et je pense la différence aussi c'est que beaucoup plus de compositeurs actuels peuvent accéder à la musique, à apprendre la musique, même si la musique maintenant se démocratise un peu plus, on peut quand même plus facilement devenir compositeur, voire des fois des compositeurs un peu connus sans avoir le bagage qu'avait un Mozart, commencé à 5 ans, etc. Bien sûr qu'il y a des compositeurs maintenant qui font facilement les grandes écoles, les grands conservatoires, etc., et qui approchent, il y a des cours de composition. Les cours de composition, c'est pas comme on était à une époque où on prenait un grand compositeur ou un grand sculpteur, prenait sous son aile quelques élèves et leur apprenait. Maintenant, on a des écoles, on a toute une pédagogie autour de la composition qui fait qu'il émerge beaucoup de jeunes compositeurs. Après, combien deviendront des très très grands ou des immenses compositeurs? Ça, c'est, on verra avec le recul nécessaire.
Et oui, complètement. Merci Emmanuel, on peut peut-être finir, et d'ailleurs on va finir en rappelant bien ce dont pourquoi vous êtes venu en quelque sorte à la base, vos deux concerts du coup du 18 janvier et du 19 janvier à l'hôtel de ville de Tours. Voilà, donc venez écouter l'orchestre d'harmonie de la ville de Tours. Je vous laisse peut-être la parole pour dépeindre un peu ce qui sera joué.
Eh bien, c'est le, comme je l'ai dit au tout début de l'émission, c'est un concert du Nouvel An, c'est-à-dire c'est la fête de la musique viennoise, c'est la façon de souhaiter un petit peu la nouvelle année en musique, avec une musique très axée autour de la danse, avec des polkas rapides, des marches, des valses, avec un répertoire autour de la famille Strauss, avec le Beau Danube bleu, la marche de l'empereur, tous les tubes un petit peu célèbres que peut-être qu'on n'a pas le nom, mais dès qu'on en écoute, on se dira ah oui, ça je connais. Toute cette musique-là, un petit peu, cette musique viennoise, on l'a un petit peu dans l'oreille, puis bon, on l'a peut-être beaucoup entendu aussi dans les supermarchés, ce qui est aussi un autre. Une autre, on pourra en discuter encore une autre fois. Mais voilà, donc cette musique-là, donc ça sera un concert qui aura lieu donc d'abord le samedi à 17h pour le premier concert et le lendemain à 16h. Donc pour tous nos auditeurs qui veulent venir, alors, j'insiste, venez assez tôt parce que ce sont des concerts qui se font en général à guichet fermé. Et donc souvent les gens ont tendance à un petit peu se battre pour avoir des places. Et comme c'est entrée libre dans la limite des places disponibles, donc n'hésitez pas à venir suffisamment tôt si vous voulez assister à un très beau concert ou deux beaux concerts de musique viennoise avec l'Orchestre d'Harmonie de la ville de Tours.
Et oui, en plus dans un cadre vraiment magnifique.
C'est vrai que l'Hôtel de Ville, c'est une chance de pouvoir de faire un concert là-dedans, parce que ça nous rappelle un petit peu la salle dorée qu'on a à Vienne, qui est la salle que l'on voit à chaque fois au Nouvel An à la télé. C'est une belle salle avec ses peintures, ses lumières, etc. Et c'est vrai que nous, on a l'impression un petit peu, même quand les gens viennent, ils ont l'impression un petit peu d'être transportés avec cette salle dorée, toutes ces belles peintures de la mairie de Tours et de la musique viennoise. Ils ont l'impression pendant 1h30 un petit peu d'être transportés un petit peu ailleurs, et un petit bout de Vienne arrive à Tours.
Oui, complètement. Eh bien, nous en resterons sur ces belles paroles. Merci beaucoup Emmanuel Jacquet d'avoir participé à notre émission.
Merci à vous de m'avoir invité.
Au revoir.
Au revoir.
Et je vous laisse en compagnie de Chloé pour l'agenda. Et un petit son, si je ne m'abuse.
Que tu as choisi encore une fois, parce que tu l'aimes bien, tu l'aimes bien, à ce qui paraît. Vas-y, dis-nous tout, je te laisse.
C'est Vald.
Exactement.
C'est Journal Perso 2.
Voilà, il est doué, il saurait presque ce qu'il me demande. Et ben, à tout de suite.
Ouais, ma vie c'est le Truman Show. La cam tombe du ciel sur la scène. Sourire coincé à la selle. Je parle pas, on me fait tout à l'œil. Je viens en retard comme si j'étais à l'heure. Je pardonne pas comme si j'ai des valeurs. Grammaire sur ma liste de malheurs. Ta grand-mère qui valide le 20h. Mais cette vie est belle, je le sais. Comme 1 000 000 € de recettes. Comme des tourtereaux sur la branche. Avant que le chômage ne fasse qu'elle ne cède. J'ai qu'il faut du blé pour les tenir. Ou attendre la prochaine manche. Non, je vais pas pleurer devant ce film. Je sais que c'est péché d'être sensible. La peur nous pousse comme des infirmes. Trop de journalistes qui désinforment. Salle de prière désemplie. Tous occupés à monter des empires. Avant que je me désintègre, je vais me trouver, je vais faire la paix. Après je vais rouler un terre et fusionner avec le canapé. Ouais, bien sûr que j'ai tout prévu. C'est le chemin qui compte pas la fin qui prévaut. Gros, les poteaux avant les putes. Je vais sauver les hommes avant les veaux. Je vais sauver les miens avant les vôtres. Gros, sinon c'est pas la peine. Mais sauver les siens avant les autres. Gros, c'est le programme des Le Pen. Ouais, populace manipulée. Au profit de qui ce n'est pas stipulé. Orphelins violés, désarticulés. Les loisirs de la haute sont particuliers. Viens voir la vie qu'on peut pas diffuser. C'est celle qui est acidulée. Là où le shit et le smic c'est le max. Au-dessus l'esclave serait moins stimulé. Ouais, je sais comment ça se passe. Un joint comment ça se tasse. Une joint comment ça se masse. Un cul comment ça se casse. Donc je sais pourquoi elle veut que je repasse. Pourquoi elle veut qu'on le refasse. Pourquoi elle veut qu'on ressasse. Même 1 minute dans le sas. Ouais, le sexe et l'argent ça fait tout. J'ai les deux et pourtant ça fait rien. Ne respire pas mon air, ça m'étouffe. Je veux être libre, je m'en bats les reins. Ouais, je veux être ivre, demain ne compte pas. Pourquoi la vie devrait être un combat. Hein, gros, j'esquive l'œil et le compas. Ainsi que les soldats que la machine dompta. Ouais, conjugaux pas c'est simple. Passe-moi le feu, la lumière va s'éteindre. Je tendrai jamais la patte à ces chiens. Pour le moment, on s'en sort assez bien. Verre à moutarde rempli d'eau. Je prends la pilule rouge comme un antibio. Je vais m'asseoir en lotus au Tibet. Et me coiffer comme les refs en chimio. Les élites sont des satanistes. De sombres sorciers maîtrisant la magie. Les créateurs et gardiens de la matrice. À chaque poste de pouvoir, quelqu'un de la famille. C'est bon pour le bénéf si c'est la panique. C'est bon pour le bénéf si c'est la famine. C'est bon pour le bénéf de ruiner l'Afrique. C'est bon pour le bénéf d'asservir l'Asie. Ouais, ce monde est cruel à souhait. Les mentalités sont baisées à fuck. Je vais nous venger les baisers à souhait. Même si le mal par le mal, c'est pas top. Ou bien j'oublie tout et j'ouvre mon laptop. Je fais navigue privé, je cherche gangbang hardcore. Là, je me branle à mort en attendant la mort. Devant l'amour de ceux qui font qu'un corps.
Et de retour en direct pour votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et devinez quoi, il est l'heure de l'agenda.
What? you gonna do now?
Et on commence avec une séance cinéma, police, New York et corruption sont au cœur de cette soirée avec le cycle Le Nouvel Hollywood en hommage à Sidney Lumet, avec la projection de Serpico de 1973 avec Al Pacino. Le synopsis, un flic idéaliste qui s'investit pleinement contre la corruption. C'est le récit de la carrière de Frank Serpico dont ce film en est un peu, du coup je me perds dans ce que je dis. On est l'hommage. Ce sera du coup une soirée présentée par Christian Viviani, enseignant et critique de cinéma. Donc rendez-vous ce soir de 19h30, à partir de 19h30 au Cinéma Studio. On enchaîne avec une soirée organisée par Catharsis Asso. Deux concerts bien métal, bien graves. Avec Imperador Belial, du black metal hot school brésilien, et Manzer, un groupe culte de Poitiers qui font du black trash metal. Alors pour tous les métalleux qui nous écoutent, rendez-vous ce soir de 19h30 à 22h au Canadian Café, 3 rue des Écritoires. Et on passe à un tout autre registre avec une soirée, le corps en scène. C'est la deuxième sur 17 organisée par la compagnie Ophélie. Il aborde différents aspects du jeu théâtral, l'impro, l'écriture, la mise en jeu du corps et de la voix. Ce sera animé par Michel Babillot, acteur, auteur et directeur artistique de la compagnie. C'est ouvert à tous, sans condition d'âge ou d'expérience. Et ce sera donc ce soir de 19h45 à 22h30 à la compagnie Ophélie, 174 rue d'Entraigues à Tours. Et on termine avec un événement pour les parents, un concours de plus de 55 ans pour la pétanque, organisé par l'APTN, l'amicale pétanque Tournor. Alors, boulistes quinquagénaires, rendez-vous demain de 14h à 23h au boulodrome de Tours. Et c'est tout pour cet agenda que je peux vous proposer en ce lundi. Il ne reste à moi plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, de bien vous amuser, vous indiquer comme à chaque fois, parce que je suis sûre que vous ne suivez pas, que cette émission sera en rediffusion demain matin de 6h à 7h sur Radio Campus 99.5, que le podcast sera en ligne ce soir sur le Facebook, donc Radio Campus Tours, et sur le site web de la radio, www.radiocampustours.com. Il va être l'heure que je vous laisse avec le flash RFI à 18h et évidemment à 18h15 le Ghetto Blaster. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à demain.
Radio Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.